Mercredi dernier, c'était le 12 octobre 2016, c'était la fête du Yom Kippour. La sixième fête parmi les sept fêtes du cycle religieux juif. Peut-être que cette évocation vous rappelle aussi des souvenirs concernant cette histoire qui s'est passée en 1844, le 22 octobre, où ce paysan baptiste transformé en prédicateur avait prêché pendant longtemps, suite à son étude du livre Daniel. Il avait prêché que Jésus revenait. Et vous vous souvenez qu'on s'est terriblement moqué de lui. Le monde chrétien s'est moqué de lui. Mais en se moquant de lui, ils se sont aussi moqués de Dieu. Parce que, à bien des égards, cet homme avait raison. La prophétie arrivait bien en octobre 1844. Bien entendu, nous ne fêtons plus ces fêtes aujourd'hui, et la raison est simple, c'est que, en réalité, le temple n'est plus là, et toutes ces fêtes étaient en rapport direct avec le temple. Dieu a pris soin que ce temple soit détruit pour que nous ne continuions pas à pratiquer ces fêtes. Et puis, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous rappelle que toutes ces cérémonies et ce culte judaïque étaient l'ombre des choses célestes, l'ombre des choses à venir. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, nous nous tournons vers celui que toutes ces fêtes annonçaient. Les premières fêtes, les fêtes du printemps, étaient en rapport avec la première venue de Jésus. Les trois fêtes de l'automne étaient en rapport avec la deuxième venue de Jésus. Mais lorsqu'on parle de prophétie, on a d'abord à l'esprit des prophéties dans Daniel, par exemple, où on parle des Médés, des Perses, des Babyloniens, des Grecs, des Romains. Tout ça, ce sont des histoires passées de toute façon. Qu'est-ce qu'on va s'inquiéter de prophéties qui concernent des gens qui sont morts depuis des milliers d'années? Mais il se trouve qu'il y a dans Daniel des prophéties qui nous éclatent à la figure. Elles éclatent devant notre porte, là. Parce que ces prophéties nous conduisent jusqu'à un temps qui est notre temps. Alors j'aimerais simplement regarder ce texte qui a secoué le monde et qui devrait le secouer encore aujourd'hui. Daniel chapitre 8, au verset 14, il est dit ceci. « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel a entendu cette prophétie et lui était en train de penser au sanctuaire, le seul qu'il connaissait vraiment bien, celui de Jérusalem. Et il a fait le calcul dans sa tête, 2300 soirs et matins, ce sont des jours, référence au texte de la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. 2300 années par conséquent, puisque c'est un texte prophétique. Et Daniel a pensé que Dieu n'allait pas pardonner pendant 2300 ans. Si le sanctuaire n'est pas purifié, c'est qu'il n'y a pas de sanctuaire, c'est que Dieu ne pardonne pas. Et on peut imaginer l'angoisse dans laquelle Daniel est tombé en se disant « Mais va-t-il falloir 2300 ans à Dieu pour pardonner à son peuple ?» On comprend que dans le chapitre suivant, on trouve Daniel prostré dans la prière, dans l'intercession. Pauvre Daniel, il a été tellement traumatisé par sa vision qu'il n'a même pas eu le temps d'écouter comme il faut ce que l'ange lui avait dit. Parce que trois fois dans cette vision du chapitre 8, l'ange lui dit « Cette vision concerne un temps qui sera la fin. » Et l'ange lui avait dit « Sois attentif, fils de l'homme. » Un peu plus loin, dans le même chapitre, il lui dit « Car il y a un temps marqué pour la fin. » Et dans l'avant-dernier verset, il dit « Pour toi, tiens secrète cette vision. » car elle se rapporte à un temps éloigné. Daniel n'a pas écouté ça, il pensait que c'était pour son peuple lui-même, là, maintenant, mais 2300 ans. C'est énorme. Dieu, dans sa bonté, a comme soulevé doucement le voile pour que ses prophètes puissent, du regard, apprécier ce qui se passe dans le ciel que nous ne pouvons pas voir. Et c'est vrai. 1844 est venu, 1844 est passé, et on peut dire sur la terre qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire, si ce n'est pour ces gens qui avaient mis toute leur foi dans le retour de Jésus et qui ont été terriblement déçus. La raison est simple, c'est que l'action n'était pas sur la terre, l'action était dans le ciel. Alors, puisque c'est dans le ciel, on a peut-être l'impression que ça ne nous regarde pas. C'est dans le ciel. Nous, on est sur la terre, après tout, pas vrai? Mais Dieu, dans sa bonté, veut montrer aux êtres humains ce qui se passe dans le ciel. Et il l'a montré, en tout cas, à trois de ses prophètes. Le premier auquel je pense, c'est Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre premier du livre de l'Apocalypse, au début de sa première vision, Jean voit quelque chose d'extraordinaire. Vous pourrez, si vous voulez, relire tout ce passage à tête reposée. Je vous propose simplement de regarder ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 1 à partir du verset 12. Jean parle de sa vision et il dit « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Et la description continue. Jean a une vision de ce qui se passe dans le ciel. Et au verset 17, il dit ceci. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Jean est terrassé par la vision qu'il voit. Il voit dans le ciel le Fils de l'homme revêtu de son habit de sacrificateur, mais pas n'importe lequel. L'habit de sacrificateur que le sacrificateur doit mettre lorsqu'il va dans le temple pour la fête des expiations. La robe de lin, la ceinture, c'est tout. Jean, dans cette vision, est écrasé par ce qu'il voit. Il tombe comme mort aux pieds de ce Jésus qu'il a connu sur la terre. Nous savons dans ce texte qu'il est question là de la fête des expiations parce que Jean le comprend lui-même. Quelques versets plus tôt, toujours dans le chapitre 1, au verset 10, il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Cette expression « au jour du Seigneur » que l'on retrouve que là est la traduction, si on peut dire, de cette expression que l'on retrouve couramment dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel. Et je vous propose de revenir dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Joël, où nous retrouvons ce jour de l'Éternel. Au chapitre 2, Joël, chapitre 2, par exemple. Dès le verset 1er, il est écrit ceci. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, car il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Vous remarquez que ce passage qui parle du jour de l'Éternel est introduit par le son de la trompette, sonné de la trompette dans Sion. Et vous reconnaissez derrière ce mot trompette en français le fameux chauffard, la corne qui avait été transformée en trompette et qui était utilisé d'une façon particulière pour la convocation au jour des expiations. Mais on se souvient que la fête qui est juste avant la fête des expiations, c'est la fête des trompettes, justement. Parce que cette fête était destinée à rassembler le peuple pour se préparer en vue de ce qui allait arriver à la fête des expiations, le jour de l'Éternel. On comprend donc dans l'Apocalypse que Jean qui voit Jésus dans cet habit de souverain sacrificateur en train de servir au jour des expiations, Jean comprend qu'en les visions qu'il va avoir, il va être question du jour des expiations et du jugement dernier. Jean n'est pas le seul à avoir vu Jésus opérer dans le ciel en tant que souverain sacrificateur dans le vrai jour des expiations. Ézéchiel l'a vu aussi. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel a une vision de Jésus sur le trône, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Et il le voit entouré de cette gloire, de la gloire de l'Éternel. Et lorsqu'Ézéchiel voit cela, il tombe sur sa face. Il est écrasé, impressionné par la vision qu'il a de ce qui se passe dans le ciel. Mais Daniel, lui aussi, va voir cette vision. Dans le chapitre 10 du livre de Daniel, il est écrit ceci, à partir du verset 5. Daniel rapporte ce qu'il voit et il dit « Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Et au verset 17, il dit « Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. » Daniel, devant cette vision de Jésus dans le ciel, est écrasé. Il est renversé par ce qu'il voit. Et il voit Jésus dans sa robe de lin, sa ceinture d'or, qui remplit la fonction du souverain sacrificateur lors du jour des expiations, le jour de Yom HaKippourim. Mais Daniel voit cette vision en réponse à une prière qu'il a adressée. Et nous l'apprenons par le début du chapitre 10. Il est dit au verset 2, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Daniel, qui vit maintenant un événement tout à fait particulier dans sa vie, est inquiet. Il a vu partir les premiers Juifs qui ont eu la permission de rentrer. Ils sont partis dans la joie pour reconstruire Jérusalem, pour reconstruire le temple. Ils ont vécu cette libération selon la promesse que Dieu avait faite par le prophète Jérémie après 70 ans. Et Daniel les a vus partir. Il était probablement trop âgé pour partir avec eux et supporter le voyage. Et il s'est réjoui avec eux de ce que, enfin, la promesse s'est réalisée et le peuple retourne dans la terre promise. Vous entendez, ils partent pour construire la nouvelle Jérusalem. Mais très rapidement, les ennemis du peuple de Dieu sur place ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher que le temple soit reconstruit. Ils ont fait des menaces. Ils ont écrit des lettres. Ils ont fait du chantage. Ils ont même payé des gens pour travailler pour eux pour empêcher que ce temple soit reconstruit. Et Daniel a appris cela. Et Daniel est inquiet parce qu'il se dit, si le temple n'est pas reconstruit, le service ne pourra pas reprendre. Dieu va-t-il pardonner? Pour lui, c'est essentiel que dans le temple à Jérusalem, le service du temple reprenne. C'est dans la direction de ce temple qu'il s'est prosterné tous les jours, 3 fois, alors qu'il priait son Dieu avec persévérance. Alors maintenant, Daniel, comme au chapitre 9, est en prière. Mais pas simplement une prière en passant, il va jeûner et prier pendant 3 semaines. 3 semaines de jeûne et de prière. Et le texte nous dit que c'est là le premier mois de l'année. On comprend parce que Daniel jeûne qu'il ne s'agit pas du mois de Nisan, mais du mois de Tichri. Et c'est important parce que dans ce mois-là, il y a 3 fêtes. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Et ces 3 fêtes, à elles 3, couvrent 21 jours. Autrement dit, Daniel va jeûner et prier et intercéder et supplier Dieu pendant la durée de ces 3 fêtes. Et c'est à la fin de ces 3 fêtes que la réponse va lui être donnée. Daniel va prier pendant ces trois fêtes. Et elles sont importantes. La première, c'est la fête des trompettes, annoncée au son du shofar. C'est la préparation pour ce qui vient. C'est la préparation dans laquelle chacun doit s'appliquer pour se présenter au moment de la fête des expiations devant le juge de l'univers. La tradition juive compare cette fête des expiations qui vient après comme le moment où le troupeau passe sous l'œil scrutateur du berger. Il est donc important de se préparer. Et la fête des trompettes, c'est l'annonce du jugement. Et vous vous souvenez d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, ces trompettes annonçaient le jugement. Pensez à Jéricho. Josué, autour de Jéricho, va conduire, selon les indications de Jésus lui-même, le peuple à tourner pendant 7 jours, dans le silence, au son de la trompette, pour annoncer le jugement qui va tomber sur cette ville. Et il se trouve que 7 jours, c'est à peu près une demi-heure prophétique. La fête des trompettes est par conséquent une fête importante de préparation, sachant que le jugement vient dans la fête des expiations. Un moment solennel, un moment très important parce que ce jugement, en fait, c'est la réhabilitation de Dieu après qu'il ait été accusé par Satan lui-même. C'est une réhabilitation de Dieu qui a été accusé de ne pas être un Dieu d'amour et de ne pas être un Dieu juste. Alors il faudra un jour que Dieu soit justifié, que Dieu soit réhabilité, et Dieu enfin réhabilité pourra être lui aussi mon juge et mon sauveur. Dans le livre « Life Sketches », Ellen White écrit ceci à la page 118. Elle voit ce qui se passe à ce moment-là, le jour des expiations, le vrai, à la fin des temps. Il est écrit ceci. « Jésus regarda le reste avec pitié, puis il leva sa main et d'une voix pleine de compassion s'écria « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang !» Alors un ange envoyé par Jésus vola rapidement vers les 4 anges qui devaient accomplir leur tâche sur la terre et leur fit signe en criant « Attendez, attendez, attendez que tous les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. » C'est un jour où dans le ciel, non seulement la justice et l'amour de Dieu sont réhabilités, mais c'est le moment où Dieu veut aussi réhabiliter tous ceux qui ont mis leur confiance dans ce Sauveur-là. Mais est-ce que vous avez pensé que pendant que se déroule dans le ciel cette fête des expiations, le Seigneur attend que chacun d'entre nous puisse être scellé pour l'éternité? Avez-vous pensé qu'il se passe dans le ciel quelque chose d'important, quelque chose qui donne raison à Dieu, qui justifie son amour et sa justice, parce que Jésus l'a fait sur la croix? Mais maintenant, il va falloir valider ce que Jésus a fait devant tout l'univers. Il va falloir valider cela. C'est une période de scellement qui commence. Et bien que cela se passe dans le ciel depuis déjà quelques années, je suis touché de penser que le Seigneur attend, avec patience, que nous soyons tous prêts à être scellés pour l'éternité. Ensuite vient la fête des tabernacles. La troisième fête pendant laquelle Daniel a jeûné. C'est une fête extraordinaire qui fait référence à ce moment où le peuple sort du désert et rentre enfin dans la terre promise. C'est l'espérance de la terre promise qui tourne nos yeux vers la véritable terre promise qui est le royaume des cieux, c'est-à-dire le moment où Jésus revient. La fête des tabernacles, la dernière. Pendant ces trois fêtes, Daniel va jeûner. C'est comme si Daniel avait prié pour ces événements qui représentent les événements de la fin. Comme si Daniel avait prié pour nous dans le temps que nous vivons. La fête des trompettes, nous comprenons qu'elle s'est réalisée dans ce que nous appelons le grand réveil. Ce moment où dans le monde entier, des prédicateurs ont surgi de tous les côtés pour annoncer la fin des temps. Pour annoncer que les prophéties allaient se réaliser, que Jésus allait revenir. Un réveil important dans le monde pour annoncer qu'en 1844, dans le ciel, il allait se passer quelque chose d'important pour tout l'univers. La justification de Dieu et la justification de ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Mais alors, si Daniel a prié avec tant d'intensité pour ces choses dans son temps, je me demande si nous ne devrions pas nous aussi prier avec tout autant d'intensité pour que nous, dans l'Église, soyons capables de poser les fondements de ce qui sera la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le peuple de Dieu à la fin. Parce que les fondements de cette Nouvelle Jérusalem, c'est ici qu'ils commencent, c'est ici qu'ils sont posés. Et dessus, le Seigneur va construire en y ajoutant tous ceux qui ne sont pas encore dans sa bergerie. Nous sommes ceux qui devons poser ces fondements-là aujourd'hui. Et que personne et que rien n'empêche cette œuvre de s'accomplir. Ne devrions-nous pas prier avec l'intensité de Daniel pour que cette œuvre s'accomplisse alors que celle-ci touche véritablement l'univers entier et la fin des temps? Mais je suis quand même étonné de voir ce que Dieu dit à Daniel. Au chapitre 12 du livre de Daniel, il est dit au verset 8, ce qui est déjà dit dans les versets précédents. Daniel chapitre 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Mais alors, si c'est si important, pourquoi est-ce que ça doit être scellé? D'ailleurs, on comprend que ces paroles ont été décellées parce que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, nous retrouvons là le petit livre. Apocalypse, chapitre 10, vous vous souvenez que Jean est invité à manger ce petit livre. Et ce petit livre, il n'est pas fermé, il est ouvert. Regardez par exemple dans Apocalypse, chapitre 10, au verset 6, ce qui est écrit. Et celui qui est debout sur la terre et sur la mer jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de temps. Mais jusqu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ah, il y a un moment où ce mystère de Dieu doit s'accomplir, où ce livre est ouvert, où ce livre, il est proposé à Daniel pour qu'il le mange. Et vous vous souvenez que ce livre, il est doux dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles. C'est l'expérience de tous ceux qui ont découvert la vérité de ce livre, qui ont compris partiellement ce qu'il disait et qui attendaient Jésus en 1844. Quelle douceur de savoir que Jésus revenait. Mais quelle déception amère de ne pas l'avoir vu revenir au moment où il l'attendait. Seulement, je comprends que finalement, ce que Dieu a scellé pour la fin n'est pas le livre de Daniel tout entier. Écoutez par exemple ce que Ellen White écrit dans « Tragédie des siècles » à la page 386. Les prophéties nous présentent une succession d'événements qui aboutissent à l'inauguration du jugement. C'est surtout le cas du livre de Daniel, mais ce prophète reçoit l'ordre de tenir close et scellée jusqu'au temps de la fin la partie de sa prophétie relative au dernier jour. C'est à cette époque-là seulement que l'on pourra proclamer un message se rapportant au jour du jugement basé sur l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'en fait, quand j'y pense, beaucoup de gens ont compris le livre de Daniel, en tout cas dans sa première partie jusqu'au chapitre 7. Déjà au IIIe siècle, saint Hippolyte avait déjà compris la réalisation de la prophétie comme nous l'expliquons aujourd'hui. Et bien d'autres gens, au travers des siècles, avaient compris ces chapitres aussi. Ils n'étaient pas fermés, ils n'étaient pas scellés, ils étaient compréhensibles. Mais il y avait une partie qui n'était pas compréhensible. Une partie qui a été gardée secrète pour le moment de la fin. Cette partie qui concerne les derniers temps et le jugement dans le ciel. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se sont levées après cette grande déception, pour mettre en évidence le fait que s'il y a une erreur quelque part, ce n'est pas Dieu qui se trompe, mais c'est nous. Et mettre en évidence ce qui aujourd'hui parle au monde et doit parler, c'est ce qui se passe dans le sanctuaire céleste. Alors je comprends, et je comprends maintenant pourquoi il y a dans le monde cet engouement pour reconstruire un troisième temple à Jérusalem. Parce que plus on va s'occuper de reconstruire un troisième temple au milieu d'un tumulte politique, moins on va s'occuper de ce qui se passe là où véritablement l'action a lieu maintenant en préparation pour la fin, c'est-à-dire dans le sanctuaire céleste. Alors que tout le monde s'occupe de reconstruire les objets du temple, personne ne s'occupe de ce qui se passe dans le sanctuaire céleste. Seulement, même si nous ne voyons pas de nos yeux ce qui se passe dans le sanctuaire céleste, comme ça a été montré à Daniel, à Ézéchiel, à Jean, ce qui s'y passe est néanmoins d'une importance capitale pour nous, parce que c'est la dernière borne avant que Jésus revienne. Dans Tragédie des siècles, à la page 532, je lis ce paragraphe qui fait le lien avec nous aujourd'hui. Nous vivons à l'époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs péchés et faire preuve d'une sincère conversion. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Il faut, chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du Christ, que la légèreté et la frivolité disparaissent. C'est au prix d'une guerre sérieuse qu'on parviendra à vaincre ces tendances mauvaises et remporter la victoire. Pendant que le Seigneur dans le ciel fait la purification du sanctuaire céleste, il voudrait aussi en même temps que la purification du temple que nous sommes se fasse à sa gloire. Il est donc extrêmement important aujourd'hui de pouvoir compter sur celui qui dans le ciel maintenant est en train de valider son sacrifice en montrant à l'univers entier que Dieu est amour et justice. C'est important que Jésus puisse fermer la bouche une fois pour toutes au diable. Et il compte sur nous pour contribuer à cette œuvre-là. Nous en rendons compte dans le livre de Job, par exemple. Mais alors aujourd'hui, il est vrai que nous sommes préoccupés par les signes des temps que nous voyons dans le monde. Et ils sont nombreux. On se demande qui va monter sur le trône des plus grandes puissances de ce monde. Et on s'inquiète en voyant les gens qui sont candidats. On se demande ce qui va se passer à Rome et quand on voit tout d'un coup se rassembler autour de ce pouvoir politico-religieux tous ceux qui sont les enfants de ceux qui ont donné leur vie pour annoncer la parole de Dieu et non la tradition humaine, on se demande ce qui se passe. On regarde dans le monde se développer les signes des temps dont Jésus a parlé dans Matthieu 24. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour les voir. Un athée peut lui-même se rendre compte que le monde va droit dans le mur. Mais même au-delà des signes des temps que nous voyons, je crois qu'il est nécessaire de regarder les signes des temps qui se passent dans le ciel. Parce qu'il y a des signes des temps dans le ciel. C'est ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui, pour vous, pour moi, pour résoudre le problème de l'univers, non seulement dans chacun de nos cœurs, mais dans l'univers entier. C'est donc important, et je me dis, si jamais le Seigneur nous donnait la grâce de pouvoir voir en soulevant le voile comme il l'a fait pour Ézéchiel, pour Daniel et pour Jean, si le Seigneur nous donnait la grâce de pouvoir voir ce qui se passe dans le ciel maintenant, je crois que nous aussi, on tomberait par terre comme morts, écrasés par la splendeur et la gloire de ce qui s'y passe, impressionnés par le ministère de Jésus, qui se prolonge depuis la croix pour sauver son peuple, pour sauver l'univers. Si le Seigneur nous donnait la grâce de voir ça, j'ai l'impression que ça changerait beaucoup de choses dans nos vies, que beaucoup de choses qui sont minimes deviendraient importantes à nos yeux maintenant, et que beaucoup de choses importantes à nos yeux maintenant disparaîtraient dans l'insignifiance au regard de ce qui se passe maintenant dans le ciel. Et ce qui se passe dans le ciel, c'est pour vous et pour moi. Oh, on s'est moqué de William Miller, on s'est moqué de lui et on se moque encore de lui aujourd'hui et on se moque encore aujourd'hui de Dieu. On s'est moqué de tous ceux qui ont parlé de Jésus, on s'est moqué de tous ceux qui ont parlé de la croix, on s'est moqué de tous ceux qui ont parlé du jugement. parce que jugement, on ne veut pas en entendre parler. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre des psaumes, psaume 98, nous fait comprendre ce qu'est le jugement de Dieu. La terre entière acclame le jugement de Dieu. La mer tape des mains, les arbres se réjouissent, la création entière chante d'allégresse, parce que Dieu vient pour juger la terre. C'est une bonne nouvelle. Dans le psaume 35, David dit à Dieu, « Réveille-toi, Seigneur, juge-moi, rends-moi justice. » Nous attendons avec impatience que le Seigneur nous juge, parce que notre jugement, le jugement de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est leur réhabilitation en tant que fils et fille de Dieu. Il n'y a pas de meilleure nouvelle, c'est la bonne nouvelle, c'est la bienheureuse espérance. C'est que le Seigneur mette fin à tout ce mal qui nous envahit dans le monde et qui envahit nos vies et qui envahit nos familles et qui envahit l'Église, s'il vous plaît. Tout le monde s'est moqué de ceux qui parlaient de la croix, du jugement. Vous vous souvenez un jour, l'apôtre Paul était à Athènes. Il a voulu expliquer ces choses aux gens les plus intelligents de l'époque. Et quand il est arrivé à parler de la croix et du jugement, ils ont tous éclaté de rire. Ils ont trouvé ça très drôle. Peut-être qu'aujourd'hui, il en est encore qui trouvent ça très drôle, que l'on parle du jugement et de la bonne nouvelle du jugement. Cependant, quand l'apôtre Paul rapporte la croix et le jugement ensemble, il apporte les deux éléments clés du plan du salut. Jésus qui gagne le salut par son sacrifice sur la croix, Jésus qui, dans le jugement, valide son sacrifice pour que l'univers entier soit sauvé. Et j'aimerais ce matin vous laisser ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, qui est le message que l'apôtre Paul, déjà à cette époque-là, laissait aux gens de son temps. Dans Actes, chapitre 17, au verset 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé le jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Amen.